الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابة أجمعين. Chers frères, chers sœurs, le sujet d'aujourd'hui d'une grande importance puisque nous allons parler de l'union et la fraternité en islam. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblé de ses bienfaits. Parmi ses bienfaits, l'islam et l'iman, l'islam et la foi. Il a voulu un certain nombre de choses pour nous et nous a montré le chemin, la route qui mène vers lui, la route qui mène vers ce que l'on espère, ce que chacun d'entre nous et chacune d'entre nous espère, c'est-à-dire la route du paradis. Il n'y a pas 36 000 routes, il n'y a pas 36 000 chemins, il n'y en a qu'un. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a choisi. C'est pour cela, parmi ses bienfaits, il nous a dit, vous êtes al-umma, vous êtes une communauté. Et je précise qu'il a dit une, umma, wa kadhalika ja'annakum ummatan wasata. Umma, il n'a pas dit umam, il n'a pas dit, il n'a pas mis au pluriel, il l'a dit au singulier. Et c'est ainsi qu'Allah a fait de vous une communauté du juste milieu. Nous ne sombrons pas dans les extrêmes, ni dans l'un, ni dans l'autre. Nous sommes une communauté du juste milieu. Même si Allah subhanahu wa ta'ala, je l'ai déjà dit dans une khutbah, reconnaît la pluralité, la diversité. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Et oui, vous les gens, Allah subhanahu wa ta'ala vous a tous créés d'un homme et d'une femme, et il a fait de vous des ethnies et des nations et des peuples différents pour que vous vous entreconnaissiez. Des peuples et des nations différentes, mais une seule communauté, Umma Wahida. Et ça, pour cette ni'ma, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyé. ربنا واجعلنا مسلما لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك مسلمة لك. الله سبحانه وتعالى il dit, c'est un dua, c'est une invocation. ربنا واجعلنا, fais de nous des gens soumis, des musulmans. ومن ذريتنا, et de notre descendance des musulmans, des gens soumis à toi. Et Allah سبحانه وتعالى, on dit dans cette invocation, fais que nos descendants fassent partie de cette communauté, donc une seule communauté. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Cette communauté est la vôtre et il n'y en a qu'une. Ainsi, aujourd'hui, beaucoup de gens, on l'entend à travers les médias, à travers les journaux, à travers même certains musulmans, qui disent qu'il n'y a pas de communauté, c'est virtuel. Comment ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété peut être virtuel? Comment ce qui nous unit, c'est-à-dire l'iman, la foi, c'est ce qui fait que nous faisons partie de cette communauté musulmane, c'est par notre foi, c'est pas par notre couleur de peau, ni par notre nom, ni par notre héritage, ni par notre généalogie, ni par je ne sais quelle autre valeur que les gens prennent en considération aujourd'hui. Donc, nous sommes une seule communauté unie par la foi, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé une chose en commun, c'est l'iman. Alors je ne parle pas de la fraternité en humanité, qui est un autre sujet. Aujourd'hui, nous parlons du fait que nous sommes une seule et même communauté. Donc il y a beaucoup de défis à relever aujourd'hui. Et parmi ces défis, vous savez lesquels? Le plus important, c'est l'intérêt matériel qui gère nos relations. Et ça, c'est partout. On ne tisse de relations, on attache d'importance aux gens et aux relations qu'à travers l'intérêt qu'il nous apporte. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cela, surtout entre nous. Et l'islam a été clair, le Coran a été clair. C'est pour ça qu'il faut revivifier ce qu'ont appelé les savants fiqh al-ukhuwah fi ad-din, hein, c'est-à-dire cette notion très importante, profonde, qui consiste à développer une relation de fraternité, mais en Dieu, sans aucun autre intérêt, uniquement en Allah subhanahu wa ta'ala. Et seulement là, à travers cela, on pourra relever les autres défis. On ne pourra relever aucun défi si on n'a pas compris que nous sommes une seule et même communauté et que nous sommes unis par Allah subhanahu wa ta'ala et par aucun autre intérêt. Ainsi, c'est pour ça qu'on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 13 ans à la Mecque enseigner aux compagnons, aux premiers musulmans, l'iman, la foi, Allah, parler d'Allah, parler du paradis, de l'enfer. Et ensuite, une fois cette foi-là forgée, il leur enseigne quoi ? L'étape suivante, c'est quoi ? C'est la fraternité. Puisqu'il va à Médine décréter, après la prière, que les musulmans sont tous frères. Que les musulmans sont tous frères. Et là, c'est important. Vous savez pourquoi ? Parce que là où il le dit, il y a eu une guerre civile pendant des années entre l'Aous et l'Khazraj à Médine. Deux tribus qui se faisaient la guerre depuis des décennies. Personne ne savait même plus pourquoi ils se faisaient la guerre, tellement cela faisait longtemps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de les réconcilier. Mais mieux que ça, il y avait parmi eux les Muhajiroun, ceux qui avaient émigré de la Mecque, qui avaient été expulsés, qui n'avaient plus rien. Et regardez comment les compagnons ont compris le discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, vous êtes des frères, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que vous êtes des frères, et il leur a ordonné de s'embrasser, de se serrer, pour expliquer que ce n'est pas de l'abstrait, ce n'est pas qu'un discours, hein, on est frères, Yahri, Yahurti, ma soeur, mon frère, non, ça se concrétise. Et vous savez comment ils vont le concrétiser ? Chacun d'entre eux va amener chez lui quelqu'un qui n'a plus rien. À Ansar, quelqu'un de l'Ansar qui est de Médine, qui est chez lui, va emmener chez lui un Mekwa et va tout lui offrir. Hatta il y en a qui va lui dire, j'ai deux maisons, je t'en laisse une. J'ai des biens qui sont à moi, la moitié t'appartiennent. Vous vous rendez compte ? Ça, c'est du concret. Et aujourd'hui, combien de musulmans ont besoin d'autres musulmans ? Et ils ne trouvent que des dos tournés, des faces retournées. Et ça, c'est la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné, nous a enseigné à travers eux, après la foi, la fraternité. Et seulement après, ensuite, viennent les autres défis qui ne peuvent être relevés qu'à travers une foi solide et une fraternité à toute épreuve. Et ainsi, pour parler de l'importance de cette union, il suffit de regarder le Coran, il suffit de regarder les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de voir que la fraternité, l'union, est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé. Donc il faut le considérer comme un bienfait. Combien de gens, combien de musulmans je vois sacrifier ce bienfait au nom de quoi ? D'un amour propre, d'un orgueil caché, de je ne sais quelle futilité, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrété comme un bienfait. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Rappelez-vous de ce bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que vous étiez des ennemis, Allah subhanahu wa ta'ala fait de vous des frères. Allah nous dit de considérer ça comme un bienfait. Allez-vous sacrifier les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala pour tout et n'importe quoi ? Au contraire. Donc il faut lui redonner l'importance qu'elle mérite à cette fraternité, à cette union. C'est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, on nous apprend très jeune, hein, nos parents nous ont appris, ne jette pas la nourriture, c'est ni'mat Allah, c'est le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas t'amuser avec la nourriture. Eh bien, la fraternité, c'est plus important que tout cela. À un tel point qu'Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, un jour, il était devant la Kaaba et il a médité, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, je préfère, ya Allah, il parle à la Kaaba, donc il dit, je préfère que tu sois détruite plutôt que de voir la fraternité musulmane se détruire. Vous vous rendez compte ? La maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, où on se dirige pour prier au quotidien, Omar a compris l'importance de cette fraternité, de cette union, puisqu'il préfère que la Kaaba à choisir, il préfère que la Kaaba soit détruite plutôt que la fraternité musulmane. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, accrochez-vous tous à la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne vous divisez pas. Et il y a plein de versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle les peuples qui étaient là avant nous, et ce qui les a détruits, c'est que justement, ils se sont divisés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans plusieurs hadiths que celui qui aime Allah, celui qui aime quelqu'un en Dieu, qui donne pour Dieu et qui empêche un mal pour Dieu, celui-là a parfait sa foi, a parachevé sa foi. Autrement dit, on ne peut pas parachever sa foi, compléter sa foi, si on n'est pas dans cet état d'esprit. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Encore un beau discours, n'est-ce pas, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, La yu'min wahadukum, vous n'atteindrez pas le summum de la foi. Nous voulons tous atteindre les sommets, les summums de la foi. Nous le voulons tous. Eh bien, le prophète nous met en garde que nous ne l'atteindrons pas si nous ne souhaitons pas pour notre frère ce que nous souhaitons pour nous-mêmes. Ici même, maintenant, je vous invite à regarder chacun d'entre vous et à demander à Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité ce que vous voulez pour vous, vous le demandez pour votre frère. Ce que vous avez, vous faites en sorte que votre frère l'obtienne également. Sans jalousie, sans haine, avec un cœur sain et pur. Et ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous enseigne ces paroles. Et on a vu que les compagnons l'ont compris, l'ont appliqué ainsi. Et un jour, par exemple, il y a Ali ibn Abi Talib, qui est jeune, il croise Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il attend que Ali lui fasse assalamu alaikum, adab. C'est le adab musulman, les règles de bienséance musulmane. Et donc il attend, et Ali ne dit rien. Omar s'inquiète, il s'approche de lui, et Ali ne dit toujours rien. Jusqu'à ce que Omar s'énerve, il dit assalamu alaikum. Et Ali de répondre wa alaikum salam wa rahmatullah. Et Omar, qui n'a pas compris, se rend en furieux chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ya Rasulallah, ton cousin Ali est passé devant moi, il n'a pas daigné me saluer. Le prophète s'étonne, convoque Ali, il lui dit ya Ali, comment ça se fait que tu n'as pas salué Omar? Pourquoi n'as-tu pas salué ton frère Omar qui en plus qui est plus âgé que toi? Et vous savez ce que va dire Ali radiallahu anhu karamallahu wajha? Il a dit ya Rasulallah, je t'ai entendu dire un jour que celui qui salue son frère en premier aura une maison au paradis, et j'ai voulu réserver cette maison pour mon frère Omar. J'ai voulu réserver cette maison au paradis pour mon frère Omar. Jusque l'akhira, ils étaient dans un stade où même pour l'akhira, ils réservaient des choses pour leur frère au quotidien. Et Dieu sait qu'ils ont connu bien des conflits, même entre eux, mais jamais, jamais ça ne les a divisés. Au contraire. Ainsi, il y a d'autres hadiths où, par exemple, il y a un hadith Qudsi où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Je me dois d'aimer ceux qui s'aiment pour moi ». C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle. Il dit « Je me dois d'aimer ceux qui s'aiment pour moi et ceux qui se rendent visite pour moi ». Vous connaissez tous l'histoire de cet homme qui se rend quelque part et il est croisé par un autre homme. C'est un ange, il ne le sait pas. Il lui dit « Assalamu alaikum, alaikum salam ». Où te rends-tu ainsi? Il lui dit « Je vais rendre visite à mon frère ». Il lui dit « Mais pourquoi tu lui rends visite ?» Il lui dit « Parce que c'est mon frère en Dieu, je l'aime en Allah, je lui rends visite pour Allah ». Et cet ange va aller justement raconter cette histoire à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah va combler ce musulman de bienfaits. Donc ce hadith-là est là pour nous montrer l'importance de garder ce genre de relations où ce sont des relations saines, sans aucun intérêt matériel ou autre, si ce n'est que c'est pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, il y a aussi le hadith, vous savez qu'il y a le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va couvrir de son ombre, de l'ombre du trône, un certain nombre de personnes, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces personnes, deux personnes qui se sont aimées en Dieu, nous dit le hadith, et qui se sont séparées pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que ce qui les a réunis, c'est Dieu, ce qui les séparera, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et rien d'autre. C'est un décret divin. Allah subhanahu wa ta'ala dit les musulmans, les croyants ne sont que des frères. Il ne peut pas en être autrement. Allez-vous aller à l'encontre? Allons-nous aller à l'encontre d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit que nous sommes que des frères? C'est un décret qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Et même dans notre adoration, dans nos cultes, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala attache beaucoup d'importance à cette unité. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez la foi. Il dit pas ya ayyuhalladhi amana, toi qui es croyant. Il dit ô vous, il parle au pluriel, il rassemble. Et ça on le retrouve dans le Coran. Tout le temps, regardez, il y a toujours le pluriel comme pour prendre conscience qu'on est un groupe, une communauté. Et on peut le voir aussi à travers les actes d'adoration. Lorsqu'on se rend à la prière, il y a un savant qui a dit que les mosquées fabriquer l'unité. C'était une usine à fabriquer l'unité. Il dit, regardez, les gens viennent de tout horizon, toute couleur confondue, tout horizon social, toute classe, bref, les pauvres, les riches, les présidents, tout le monde rentre à la mosquée différent. Et quand il en ressort, ils sont tous frères et s'aiment à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ça, on ne le trouve qu'en islam. La prière, vous venez, le premier qui arrive, c'est lui le premier installé au premier rang. Les premiers rangs ne sont pas réservés ni au ministre, ni au président, ni à un tel, ou de je ne sais quelle classe, mais le premier qui arrive, c'est lui. Et tous, on est sur le même rang. Tous égaux devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, déjà là, il y a un enseignement pour nous, hein, par rapport à l'unité et à la fraternité. C'est pour ça que le prophète nous a dit dans la prière, collez-vous bien, mettez-vous bien les uns contre les autres. Signe de fraternité, mais également pour empêcher Shaitan de venir entre nous et semer la zizanie entre nous. Sourate al-Fatiha, ihdina sirat al-mustaqim, ihdina, on parle pour tout le monde. 17 fois par jour au minimum, on dit « Ya Allah, guide-nous ». On ne dit pas « guide-moi », on dit « guide-nous, Ya Allah ». On pense à nous, mais on pense à toute la communauté musulmane en général. Et le hajj, il suffit de regarder le hajj. Alors, c'est encore plus parlant. Là, les gens viennent de les quatre coins de la terre. Et wallah, je vous défie de reconnaître qui fait quoi dans la vie. Qui est pauvre, qui est riche. Tout le monde avec le même linceul, avec le même... les savants disent comme si... Ce linceul là, par rapport à la mort, on va tous être entourés par ce linceul le jour de notre mort, et on est tous égaux devant le hajj comme devant la mort. Donc tout cela pour nous rappeler également l'importance de cette unité et de cette fraternité qui doit être indissoluble. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété cette fraternité. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord sur tout. On a déjà vu que nous sommes tous différents, nous venons d'horizons différents, nous avons une culture différente, on ne peut pas être d'accord. Mais la base, le fondement, c'est l'unité et la fraternité. Donc quand tu abordes quelqu'un avec qui tu es en désaccord, c'est la priorité, c'est l'union. Un jour, M. Hassan al-Banna, rahimahullah, qui dirigeait la prière, et ça allait être le moment de l'Iqama. Et deux musulmans se sont disputés pour voir qui allait faire l'Iqama en premier. Et ils se disputent, l'imam se retourne, il dit « Allahu Akbar » et il commence la prière. Il n'a pas attendu. Donc tout le monde suit, ils font tous la prière, et à la fin ils vont le voir, ils disent « Mais Yachir, tu n'as même pas attendu qu'on fasse l'Iqama. » Il a dit « L'Iqama est une sunna, l'unité musulmane est une obligation. J'ai privilégié l'obligation sur la sunna. Hein » Vous vous rendez compte à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il a dit « Le Qur'an », il a pris le Qur'an, il a dit « Ça, si vous êtes en désaccord à cause de ça, mettez-le de côté. » Pour nous montrer à quel point comment on doit se comporter lors de désaccords ou lorsque on ne s'entend pas sur un sujet. Toujours ça, avoir cela à l'esprit, la base c'est le rassemblement et l'union. Le désaccord ne signifie pas la division. On ne peut ne pas être d'accord, de toute façon on ne peut pas être d'accord sur tout, mais nous ne sommes que des frères et des sœurs en islam. On voit que même dans les batailles, la bataille de Bedr, qui a vu le nombre de musulmans très, très petit, ils étaient 300 et quelques, 313 selon des versions, 314, les ennemis étaient plus de 1000. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qui a fait que Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la victoire sur d'autres? Effectivement, ce n'est pas le nombre, mais c'est l'iman, la foi, avec la conviction avec laquelle les musulmans ont abordé cette bataille, mais l'union qu'il y avait entre eux. Et la bataille suivante, la bataille de Uhud, alors que les musulmans étaient avantagés, ils l'ont perdue. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient en désaccord. Alors, le prophète avait demandé à des compagnons de veiller sur une parcelle de la montagne, et ils ont désobéi. Et ils se sont disputés pour un butin. Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé la défaite. Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit, voilà, maintenant, kuntum anna hadha qul min indi anfusikum. Vous posez la question, c'est un verset du Coran, parce que les musulmans se disent, mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous inflige cela? Et Allah leur répond en leur disant, mais ne dites pas cela, dites que cela vienne de vous, ça vient de vous. Donc d'abord l'union avant le reste. Quelques petites anecdotes pour mettre en évidence cette partie-là. Un jour, il y a Zain al-Abidin, rahimahullah, qui est le descendant, l'un des descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il est le fils de Hussein, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On raconte qu'un jour, dans une mosquée, il y avait des pauvres. Et tous les jours, tous les matins, ils trouvaient de la nourriture et des biens dans la mosquée sans que personne ne sache d'où cela vient. Et ça a duré pendant des mois. Personne n'a jamais su d'où cela provenait. Et puis un jour, un homme est décédé. Un homme est mort. Et les biens se sont arrêtés. Et vous savez qui était ce mort? Rahimahullah, c'était Zain al-Abidin. En fait, toutes les nuits, il se réveillait en cachette, il remplissait des sacs et il les ramenait à la mosquée sans que personne le sache. Et vous savez comment ils l'ont su également? Quand ils ont fait le lavage du mort, ils ont vu toutes les traces de cordes tressées sur son dos, tellement il portait les sacs pour les ramener à la mosquée. Et tout ça en secret, personne ne l'a jamais su, sauf le jour de sa mort, puisque les biens se sont arrêtés. Tout ça par fraternité et générosité envers ses frères qui n'avaient pas les moyens. Et là, Ibn Sa'd, qui est un grand savant, qui un jour a donné une somme pour faire des sadaqas, il a donné une grosse somme, il a dit de vous distribuer ça. Et puis, en même temps, cette même personne qui distribuait était chargée d'aller récupérer une maison que cet homme avait achetée. Et quand il a voulu acquérir la maison, il a vu qu'à l'intérieur, il y avait des orphelins. Il est revenu voir son maître, il a dit, qu'est-ce que je fais? Il a dit, mais donne-leur. C'est quoi cette question? Donne-leur cette maison, subhanallah. Et il a donné en sadaqa cette maison pour ces orphelins qui n'avaient pas de foyer. Un jour, Ibn Omar, radiallahu anhu, raconte, il dit, un jour, on m'a offert une tête de mouton. J'avais pas à manger, on me l'a offert. Je me suis dit, il y en a plus besoin que moi, mon frère, il en a plus besoin que moi. Il lui a envoyé. La personne chez qui elle est arrivée, il s'est dit, mais mon autre frère en a peut-être plus besoin que moi. Et ainsi de suite. Et vous savez que cette tête, elle est revenue jusqu'à Ibn Omar. Elle a fait le tour. Et elle est revenue jusqu'à le premier qui l'avait donné. Tellement ils avaient cet esprit de partage et de fraternité entre eux. Et un jour... Ça, c'est un cheikh qui nous l'a raconté il n'y a pas très longtemps, lorsqu'il était jeune, il était adolescent. Ils ont organisé dans un pays du Maghreb un grand festival musulman, une grande fête musulmane. Et vous savez ce que c'est, la préparation, la difficulté, la fatigue et tout ça. Et un jour, un jeune qui est arrivé devant lui était un petit peu, je ne vais pas dire jaloux, mais il lui en voulait un peu. Il lui dit, mais vous faites n'importe quoi, c'est pour vous faire voir, etc. Et le jeune s'est emporté. C'est le cheikh qui raconte, il dit, je me suis emporté. J'ai dit, aujourd'hui c'est son dernier jour. Et il ne passera pas un jour de plus. Et il s'énerve, il se met en colère, les frères le viennent, le calment. C'est pas grave, matrage, tu verras, ça se passera bien et tout. Ils l'ont mis de côté. Et ces jeunes-là avaient un maître, si vous voulez, Cheikh Al-Akhdar. C'est comme ça qu'ils l'appelaient. Et ils ont fait appeler ce cheikh pour le calmer un peu. Donc le festival se termine, ce frère se rend à l'extérieur pour attraper cette personne. Et il voit Cheikh Al-Akhdar, son maître. Donc il fait comme... Il ne savait pas qu'il était venu pour lui. Il fait comme s'il n'avait pas vu, il passe. Le Cheikh l'attrape, il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Et il lui explique, ouais, mais il m'a fait ça, il m'a dit ça, ta ta ta. Il lui fait, il m'a fait ça, il m'a... Il lui dit, écoute, c'est ton frère, est-ce qu'il a critiqué l'islam? Il lui dit, non, il t'a critiqué toi, oui. Donc, classe, pourquoi tu... Non, aujourd'hui, mais tu verrais ce qu'il m'a dit et tout ça. Bref, Cheikh Al-Akhdar sort un billet et lui dit, tiens, prends ce billet, tu vas lui acheter un cadeau et tu l'offres. Quoi? C'est moi qui veux le... Il m'insulte devant tout le monde, c'est moi. Il lui dit, fais ce que je te dis. Et il veut pas, il prend quand même le billet, il lui met de force. Il rentre chez lui, il demande à son père, qu'est-ce que t'en penses? Son père lui dit, Cheikh Al-Akhdar, il a raison. Cheikh Al-Akhdar, il a raison. Et la mort dans l'âme, il prend son billet, il va acheter le cadeau. Il se rend chez le frère en question, il sonne. Le frère ouvre la porte, le voit, il croit qu'il va le frapper. Donc il se met en garde. Et le frère lui offre le cadeau. C'est ce qu'a fait le frère. Il a fondu en larmes, il est tombé, il a dit, mais... Et le cheikh qui me raconte l'histoire, qui dit, si j'avais su le résultat, j'aurais pas attendu ni Cheikh Al-Akhdar ni truc pour le faire, je l'aurais fait. Hein, vous avez vu comment il faut mettre de côté l'orgueil mal placé, l'amour propre, car les embrouilles, cela arrive à tout le monde. Mais comment nous gérons cette différence? Hein, un jour, Abu Dhar al-Ghifari, grand compagnon, grand ascète, il insulte Bilal, hein, comme s'il n'avait pas oublié que Bilal avant c'était un esclave. Il lui dit, espèce de fils de négresse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a entendu, a regardé Abu Dhar, il lui dit, il te reste encore des déchets là, de l'jahiliya. Il te reste des déchets de l'ignorance. Abu Dhar s'est senti très mal, vous savez ce qu'il a fait? Il s'est jeté par terre, la face contre terre, il a dit, yeah, Bilal, écrase cette face qui a osé t'insulter. Et Bilal de lui dire, comment moi pourrais-je mettre le pied sur une face qui se prosterne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce qui nous unit, Allah, notre amour propre entre frères. Adillatun ala al-mu'minin, hein? Dans un verset du Coran, Allah décrit les croyants, il dit, vis-à-vis des croyants, ils sont humbles et modestes. Pourquoi tu mets en avant toujours ta personne? Pourquoi tu mets toujours en avant, quand t'es blessé, ton amour propre, ton orgueil? Laisse tout ça de côté et pense au jour de la rétribution où Allah subhanahu wa ta'ala te rétribuera pour ta patience envers ton frère et t'élèvera auprès de lui pour ta grandeur et ta patience vis-à-vis de tes frères et tes sœurs. Mon frère, ma sœur, soyez patients les uns envers les autres, car l'avenir qui vient vers nous nous réserve des surprises, et si nous ne sommes pas unis, et si nous ne sommes pas capables ensemble d'être patients les uns envers les autres, de se pardonner mutuellement, alors nous avons tout à craindre de cet avenir. A l'inverse, si nous avons compris que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous unit, et c'est à travers lui qu'on doit s'organiser et organiser nos relations, sans aucun autre intérêt, alors nous aurons tout à gagner, inshallah ta'ala. Aujourd'hui, pour tout à l'heure justement, quelques informations. La première, c'est qu'il y a une sœur, l'Ourts, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter sa sadaqa, puisqu'elle a ramené une sadaqa. Donc vous êtes tous et toutes conviés, inshallah, tout à l'heure, dans la cour pour partager cette ni'ma, ce bienfait de cette sœur. Allah y taqabbal minha, inshallah. Tout à l'heure, nous ferons une invocation aussi pour un jeune de nos frères, Uthman, qui est très malade, qui est le fils d'un frère que nous connaissons tous, et d'une sœur. Donc nous ferons une invocation car elle est très malade en ce moment, elle est hospitalisée, inshallah ta'ala. Et puis, une veillée spirituelle pour les femmes, donc le samedi 10 juin à 20h30. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma ijma' sufufana. اللهم احشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف اخينا عثمان ان شاء الله تعالى. اللهم اشف مرضه وكشف عنه ضره ان شاء الله تعالى يا ربي. اللهم اشف مرضه ومرضى المسلمين. اللهم قوي ايماننا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وصل اللهم على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.